suite de ce thème, peut-on faire ce que l'on veut avec le vivant sous prétexte que c'est de la science? Alors bien entendu, on pourrait se poser des questions beaucoup plus générales, peut-on faire n'importe quoi sous prétexte que c'est de la science? On focalise sur le vivant puisque vous êtes une école intéressée par l'agronomie, et donc la limitation sera un peu sur les structures vivantes. Alors cette question-là suppose une réflexion préliminaire sur deux domaines. Qu'est-ce qu'une science? Et puis, puisqu'on va dire que, je vous dis tout de suite, ma conclusion, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur le vivant, vous en seriez douté. Et donc, pose une question aussi sur la morale. Qu'est-ce que la morale? Donc on va dire quelques mots sur ces deux domaines. La science, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup l'espèce humaine, au point que l'homme s'est nommé lui-même homme savant, homo sapiens. Il aurait pu s'appeler de toutes sortes d'autres manières, mais ce qui l'a intéressé, c'est son activité scientifique. La science, a priori, c'est une connaissance sur le monde dans lequel on vit. Formulé comme ça, c'est très général. Et formulé comme ça, ça suppose aussi, par exemple, que certains animaux intelligents, disons les vertébrés, par exemple, les chats, les chiens, ont aussi des connaissances sur le milieu dans lequel ils vivent. Nous ne sommes plus à l'époque où Descartes avait décrit des animaux-machines qui ne comprenaient rien. Tout le monde sait aujourd'hui qu'un chien sait, a des connaissances, il sait qu'à tel endroit il y a quelqu'un de sympathique qui donne de la nourriture, un autre endroit on risque de tomber, un autre endroit on risque de brûler, etc. Donc tout animal d'une certaine intelligence a des connaissances sur son environnement. Alors est-ce que ces connaissances sont scientifiques? Moi je serais tenté de dire que ces connaissances des animaux c'est une proto-science, c'est des racines de ce que verra la science. Ça suppose une rationalité. Hein. Il faut que l'animal sache que s'il va là il va se brûler, donc il y a bien quelque chose de rationnel dans son comportement. Alors ça devient science, évidemment, quand l'homme, avec son puissant cerveau dont on parlera tout à l'heure, est capable non seulement d'avoir des connaissances, mais de les ériger en système, en règles, donner des lois. L'homme, il va pas simplement savoir empiriquement qu'il ne faut pas aller à tel endroit parce que ça brûle, il va faire une loi pour dire tous les systèmes carbonés risquent de se brûler. Donc là, ça devient une science, quand ça devient quelque chose de systématique ou de généralisable, qui est susceptible de donner une loi. Et une loi qui est exprimable par le langage, que, avec quelques exceptions près, seul l'homme pratique, c'est que seul l'homme est une espèce qui parle, même s'il y a ici encore des ébauches de langage chez certains animaux. Le cerveau est un simulateur, c'est un système qui simule le monde. Einstein se demandait comment ça se fait que le monde soit compréhensible. Bien, la réponse, elle est que notre cerveau, qui est fabriqué de façon matérielle avec les mêmes molécules que celles qui sont dans le monde, est capable, d'une certaine façon, de mimer ce qui se passe à l'extérieur. De simuler, si vous voulez, des lois à l'intérieur de notre cerveau qui correspondent aux lois du monde. Donc le cerveau est un système de simulation. Chez les animaux, intelligents, mais a fortiori chez l'homme qui a un super cerveau et qui peut simuler de façon considérable et de façon que les animaux ne font pas. Hein. Encore une fois, l'homme est le seul à avoir un langage articulé compliqué comme on a. Il est le seul aussi à capable de faire des simulations de type mathématique, de créer des outils mathématiques capables de simuler les phénomènes du monde à notre connaissance. Aucun animal ne fait des choses pareilles. Une science se définit par son objet, c'est-à-dire par ce qu'elle étudie. Par exemple, la biologie, c'est la science bio des êtres vivants. La physique, c'est la science des systèmes matériels. Une science se définit par son objet, mais aussi par une certaine conception des méthodes utilisées. Par exemple, la géologie et la géographie ont le même objet, la Terre, géo, mais il y en a une qui va étudier plutôt la façon dont elle est organisée et l'autre dont elle se constitue, la géologie, par ses terrains, ses roches, etc. Donc voilà ce que c'est que la science. Pour que cette connaissance scientifique, animale d'abord, mais surtout humaine, soit positive, soit fructueuse, il faut qu'elle soit correcte. Il faut qu'on sache, par exemple, que les structures carbonées, ça brûle. Donc, il y a ce qu'on appelle la vérité scientifique, qui est quelque chose qui, a priori, est vérifiable dans la majorité des cas qu'on peut expérimenter. Hein. En général, un système organique composé de carbone, ça brûle. Bon. Donc ça suppose une certaine objectivité. En art, on peut faire ce qu'on veut. On peut dire, par exemple, il y a cette superbe phrase d'Éluard que vous connaissez peut-être, « La Terre est bleue comme une orange ». C'est magnifique, mais ce n'est pas une phrase scientifique. Il est clair que la Terre ne peut pas être bleue comme une orange. En science, la Terre, elle est ou bleue ou orange. Donc, il y a une certaine objectivité scientifique. Et on va y revenir tout à l'heure. Le scientifique doit respecter une certaine vérité de ce qu'il trouve. Il ne peut pas, en quelque sorte, tricher. Il ne peut pas dire, non, les chaînons carbonés, ça ne brûle pas. Ça, c'est faux. Ça ne correspond pas à la vérité scientifique, donc c'est faux, dans l'état actuel des connaissances. Qu'est-ce que la morale? La morale, c'est un système de convention pour les animaux qui vivent en société. Vous voyez, ici encore, je suis très général. En d'autres termes, je vais dire qu'il y a des proto-morales chez certains animaux. Tous les animaux qui vivent en société ont besoin que leur structure sociale ait des règles qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une société d'animaux. Ce qui fait que les contraintes, entre guillemets, morales ou proto-morales, on va les trouver chez les animaux qui vivent en société ou à la rigueur en famille. Dans une famille, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le petit animal ne peut pas faire n'importe quoi vis-à-vis de ses parents. Donc ça, c'est les prémices de la morale. Ça veut dire qu'il y a des bases biologiques dans la morale. Je ne dis pas que la morale, c'est strictement biologique, je vais y revenir, mais il y a des bases biologiques. Par exemple, il y a une base darwinienne très classique que toute espèce animale qui élève des petits a tendance à protéger ses petits. Par exemple, nous, humains, on est choqués par la torture, mais on trouvera beaucoup plus choquant la torture d'un enfant que celle d'un adulte. Mais ça correspond à cette vieille règle darwinienne que tout animal qui a des petits privilégie la protection de ses petits. Il y a une racine biologique dans ce comportement moral. Un autre exemple, nous sommes très choqués par l'inceste. Mais ça, ça a une racine biologique parce que nous sommes en quelque sorte des singes. On est issus d'une lignée de primates. Tous les primates, pas seulement l'homme, mais les chimpanzés, les autres singes, n'aiment pas l'inceste, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas très très bien d'ailleurs. Nous serions des souris ou des chats, l'inceste ne nous choquerait pas du tout. Mais comme nous sommes des singes, ça nous choque profondément. Donc voilà encore un phénomène qui trouve une racine biologique. Un chercheur qui s'appelle Franz Deval a beaucoup étudié les groupes de chimpanzés. Alors ce sont des chimpanzés semi-domestiques, qui ne vivent pas dans la nature. Hein. On connaît moins bien les chimpanzés dans la nature. Néanmoins, dans ces troupes de chimpanzés, Deval a montré toute une série de comportements que nous interpréterions comme moraux. Les chimpanzés ont des négociations, des récompenses, des punitions, ils aident des handicapés, ils protègent leurs petits, etc., etc., etc. Les phénomènes de réconciliation ou de pardon existent, en quelque sorte, chez les chimpanzés. Deval a des phrases pour dire que ce n'est pas du tout des comportements spécifiquement humains. Donc vous voyez que la morale a des racines biologiques très fortes, elle aussi. Mais, et ici encore, comme pour la science, l'homme, avec son grand cerveau, va lui donner une allure tout à fait personnelle. La morale humaine n'est quand même pas du tout équivalente à ces morales, ou ces proto-morales qu'on peut trouver chez les animaux. Parce que l'homme va la rationaliser, la transformer par le langage, lui donner en quelque sorte un caractère de discours, un caractère discursif. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. En d'autres termes, il va transformer ses proto-morales animales en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Dans la morale, il y a un certain nombre de choses. On ne va pas faire un discours sur la morale ici. Il y a notamment un discours sur la vérité. Et là, on va retrouver la vérité scientifique. A priori, sauf des cas très particuliers, est immoral ce qui est mensonge, ce qui triche, ce qui n'est pas la vérité. Et donc, on va voir la même chose en ce qui concerne la science. En d'autres termes, dans l'exposé qui va suivre, je vais vous parler, au point de vue moral, des limites de ce qu'on ne peut pas faire sur le vivant, dans deux domaines. Un domaine qui va être intérieur à la science, qui va être, on ne peut pas tricher par rapport à ses connaissances scientifiques. En d'autres termes, on ne peut pas frauder dans la science. Ça, c'est un domaine interne. Est-ce qu'on peut faire une science sans morale? Ce que j'ai annoncé, une science sans morale. Est-ce qu'il y a une science sans morale? Est-ce qu'on peut imaginer une vérité scientifique qui ne serait pas morale du tout? Alors, vous allez voir que, par rapport à l'objectivité, c'est non. Qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas mentir, en quelque sorte. Et puis, deuxième groupe de réflexion qu'on peut avoir sur les limites de ce qu'on peut faire en science dans le vivant, c'est ce qui touche au vivant lui-même, aux objets, enfin, aux entités qu'on va... au sujet qu'on va étudier. Et alors là, j'ai distingué très schématiquement trois domaines très classiques. C'est le vivant humain. Peut-on faire n'importe quoi sur l'homme? Vous imaginez bien que la réponse, c'est non. Peut-on faire n'importe quoi sur l'animal? Je vous montrerai que la réponse, c'est aussi non. Et peut-on faire n'importe quoi sur le vivant tout court, c'est-à-dire en gros l'environnement? La réponse, ce sera non également. Donc voilà, en gros, le plan que je vais suivre dans l'exposé que je vais vous présenter. Commençons par les phénomènes de limites internes. En d'autres termes, les cas où les scientifiques, les cas de non-science, il y a des scientifiques qui trichent. Donc ils ne font plus de la science. Ils font quelque chose qui est de la fraude, si vous voulez. Hein. Et donc, au lieu de décrire le monde tel qu'ils le voient, ils vont inventer des choses pour des raisons variées, carrière, on va en voir des exemples tout à l'heure, ça peut être des raisons beaucoup plus sérieuses que ça. Et donc, ils vont tricher avec leurs résultats, c'est ce qu'on appelle les fraudes scientifiques. Il y a tout un corpus de fraudes scientifiques. Je ne vais pas vous les décrire toutes, je vais vous donner quelques exemples. Premièrement, les souris de Somerlin. Somerlin, c'est un chercheur américain qui travaillait sur les greffes. Vous savez que le problème des greffes, c'est que les tissus greffés sont souvent rejetés par le receveur, parce qu'il y a des incompatibilités immunitaires. Et Sommerlin, pardon, j'ai tendance à prononcer la française, avait trouvé une technique de lavage des peaux, pour greffer des peaux de souris. Il les lavait, de certaine façon, avec des solvants, et il avait cru, il avait pensé que grâce à ça, il limitait les rejets. Et il avait publié des résultats spectaculaires montrant une persistance de greffe de peau de souris blanche sur des souris noires. Donc, l'origine de la fraude, c'est qu'il avait cru trouver quelque chose d'intéressant et de spectaculaire. Vous imaginez que si on pouvait laver les tissus pour qu'ils soient plus rejetés, pour les greffes, ça serait absolument considérable. Hein. Il s'était trompé, mais bon, il a cru trouver ça. Et aujourd'hui, on pense que ce qu'il avait cru comme être des persistances de peau blanche sur des souris noires étaient en fait des espèces de cicatrices, non pas du tissu greffé, mais de la souris receveuse. On l'interprète aujourd'hui comme ça. Bref, il s'est trompé, il avait cru trouver quelque chose d'intéressant. Et puis alors, vous êtes la recherche scientifique qui a été très, très compétitive, il y a eu des gens qui n'ont pas trouvé le même résultat, il a été critiqué, donc il y a eu une pression sociale très forte sur lui, pour lui essayer de lui montrer qu'est-ce qu'il avait fait. Il a eu des inspections et il y a eu une menace d'une inspection où il risquait gros, son labo risquait d'être supprimé. Et il a été pincé la nuit en train de peindre des taches blanches sur ses souris noires pour faire croire qu'il y avait une greffe de peau. Donc il s'est fait virer tout de suite. Donc voilà un exemple de fraude qui a des raisons. Hein. Cette personne, Sommerlin, avait cru trouver quelque chose, il n'a pas résisté à la communauté internationale, scientifique internationale, et donc il a fait une fraude, il a été peint de ses souris, ce qui est quand même assez original. L'étreinte du crapaud, c'est une histoire très très célèbre. Ça se passe à Vienne, avant la guerre, et c'est un certain Kammerer qui est impliqué dans cette affaire. À l'époque, il y avait des grandes controverses entre des partisans de l'hérédité des caractères acquis, ce qu'on appelle les Lamarckiens, qui croyaient qu'on pouvait transmettre par la descendance des caractères qu'on avait acquis. Par exemple, vous l'avez une girafe qui a le cou qui vient grand, elle transmet son grand cou à sa descendance, on pense que c'est faux aujourd'hui. Et puis, les Darwiniens qui pensaient qu'il n'y a pas de transmission des caractères acquis. Les néo-Darwiniens, parce que je rappelle souvent que Darwin, lui, était Lamarckien. Mais bon, les néo-Darwiniens ne croient pas à l'hérédité des caractères acquis. Alors, il y avait des controverses très compliquées entre les chercheurs là-dessus, et Kammerer avait cru trouver une preuve de l'hérédité des caractères acquis. Chez le crapaud. Pourquoi? Alors, les crapauds, il y a toutes sortes de crapauds, il y a des crapauds qui se reproduisent dans l'eau. Et pour ce faire, pour bien serrer la femelle, l'étreinte du crapaud, pour que le mâle serre la femelle, il a ce qu'on appelle des brosses copulatrices, c'est-à-dire des espèces de callosités qui lui permettent de maintenir la femelle, de l'accrocher, si vous voulez. Bon. Alors que les crapauds aériens n'ont pas besoin de ça. Alors, Kammerer a fait se reproduire dans l'eau des crapauds aériens, et il avait constaté qu'il y avait apparition de ces brosses qui se transmettaient ensuite aux enfants. Donc, c'était un modèle qui paraissait lamarckien. On créait quelque chose en faisant reproduire les crapauds dans l'eau, et puis ça se transmettait ensuite à la descendance. On pense aujourd'hui qu'il s'est planté pour différentes raisons, parce que, pour des raisons ontogénétiques, des raisons d'environnement, des crapauds peuvent acquérir des brosses sans que ça se transmette à la descendance. Il s'était trompé, mais... Alors, il y a eu toute une histoire, il y a eu la guerre, ça s'est compliqué par des problèmes politiques, parce que Kammerer était très à gauche, très proche des soviétiques, c'était l'époque où le nazisme commençait à apparaître à Vienne. Donc il y a eu des controverses, des inspections comme tout à l'heure. Certains crapauds de Kammerer ont disparu pendant la guerre, et le dernier crapaud dans un bocal a été conservé, et il y a eu une inspection scientifique. Et là on s'est aperçu que ce crapaud, il avait été injecté avec de l'encre de Chine pour faire apparaître de fausses callosités. Il avait été trafiqué. On pense que c'est pas Kammerer qui avait fait ça, alors il y a plusieurs écoles possibles, on pense que c'est probablement ou un de ses élèves qui a voulu le défendre et qui a fait maladroitement, qui a fait des fausses callosités, ou au contraire, des gens qui avaient voulu le couler. On dit que certains militants nazis avaient voulu couler Kammerer qui était socialiste en le compromettant par une fraude. Kammerer s'est suicidé peu après, peut-être pour d'autres raisons, c'est pas clair. Donc il y a eu toute une histoire, c'est une histoire extrêmement célèbre par les conséquences politiques et sociales qu'elle a eues. Troisième exemple, les faux jumeaux de Cyril Burt. Ici, ça touche à des problèmes idéologiques. Cyril Burt était convaincu de l'hérédité de l'intelligence. Et donc, vous savez que, comme on pense aujourd'hui que dans l'intelligence, il y a des facteurs innés et des facteurs acquis, comme dans beaucoup de choses, mais lui, Cyril Burt, il voulait me prouver que l'intelligence est majoritairement innée. Alors, pour ce faire, il travaillait sur des paires de jumeaux vrais. C'est-à-dire des jumeaux vrais qui ont le même patrimoine génétique, c'est le même individu tiré à deux exemplaires, Et ces jumeaux vrais, étudiés par Burke, avaient été élevés par des familles différentes. Par exemple, pour des raisons sociales, ils avaient perdu leurs parents, par exemple. L'un avait été élevé par une famille d'ouvriers, et l'autre par une famille de cadres, par exemple. Hein. Ensuite, Cyril Burke faisait passer à ses jumeaux des tests de quotient intellectuel, et il constatait que les quotients étaient étonnamment proches. En d'autres termes, malgré la différence d'éducation, de milieu, de stimulation intellectuelle, tout ce que vous voudrez, les deux jumeaux gardaient des quotients intellectuels extrêmement proches les uns des autres. Ils ne travaillaient pas sur, d'ailleurs, ils cherchaient des paires de jumeaux, différents types de jumeaux, et au début de sa carrière, il avait publié sur une dizaine en gros, et puis au fur et à mesure de sa carrière, l'effectif s'est accru. Donc, c'était une preuve très forte qui était citée comme une preuve très forte d'une base assez puissante de l'hérédité dans l'intelligence, même si le quotient intellectuel n'est pas absolument l'intelligence, mais ça dit quelque chose quand même. Et puis, quand Burke est mort, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses bizarres dans les résultats qu'il avait publiés. D'abord, ce qu'on appelle les coefficients de corrélation, c'est la corrélation entre les différents groupes de jumeaux, qui étaient une dizaine au départ pour être plusieurs dizaines au bout, était étonnamment proche. Il n'y avait pas beaucoup de variations. Ça suggérait qu'il avait dû tripatouiller ses résultats. À la fin de sa vie, il fallait interviewer ses jumeaux, il fallait leur faire des tests. Hein. Donc, Burke étant dans son fauteuil, il pouvait plus bouger. Donc, il avait deux collaboratrices, qui étaient Miss Conway et Miss Howard, qui allaient faire passer les tests pour lui, et Burke écrivait les articles. Et après la mort de Burke, on s'est aperçu que Miss Conway et Miss Howard n'avaient jamais existé que dans l'imagination de Burke. C'était deux fausses collaboratrices qui étaient simplement sur la signature des articles. Bref, on s'est aperçu après coup que tout le travail de Burke était absolument fabriqué. Il avait tout inventé et créé tous les résultats de toutes pièces. Donc voilà une fraude absolument spectaculaire pour des raisons idéologiques. À côté de ces fraudes-là, il y en a des tas d'autres hein, qui sont des fraudes spectaculaires, il y a des fraudes beaucoup plus mineures. Et celles-là, elles sont très communes dans les laboratoires. Je vous donne un exemple. Un chercheur fait quatre fois une expérience. Pour trois expériences, pour trois événements, il trouve le résultat A. Puis pour le quatrième, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, j'ai fait trois expériences, j'ai trois fois le résultat A, et il publie. D'autres termes, le fait de ne pas publier la totalité de ses résultats, c'est quelque chose qui est très commun dans les laboratoires. C'est moins grave, évidemment, que les faux jumeaux de Cyril Burke. Hein. Mais disons que des fraudes mineures, ça se trouve beaucoup. Hein. Il y a même des cas où les fraudes peuvent s'avérer fructueuses. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous les lois de Mandel, l'histoire des petits pois qui apparaissent un quart ridé et puis trois quarts lisses. Hein. Non, de la deuxième génération de petits pois. Je pense que tout le monde est familier ici. Qui c'est qui ne connaît pas les lois de Mandel? Non, personne. Bon. Donc, on s'est aperçu après coup que les proportions trois quarts, un quart qui sont données dans l'article de Mandel sont trop parfaites pour être vraies. En d'autres termes, les proportions qu'il donne, un statisticien a pu montrer qu'elles sont trop parfaites pour avoir été obtenues directement dans la nature. Alors c'est intéressant parce que les lois de Mandel, ça a quand même une importance considérable. Elles sont vraies, les lois de Mandel. Elles sont justes. Mais les résultats donnés, les statistiques données par Mandel, elles étaient fausses, elles étaient trafiquées. Alors pourquoi? On pense pas que c'est Mandel qui a fait ça lui-même. On pense que c'est son jardinier, parce qu'il était des jardiniers. Le jardinier voyant arriver trois quarts, un quart, il a rangé en disant, bon, trois quarts, un quart, crac, boum, c'est trois quarts, un quart. On pense que c'est le jardinier qui a trafiqué les résultats. Et voilà un cas où ça a été fructueux. C'est un résultat gauchi, mais qui a été très utile pour la science. Voilà, donc quelques exemples, si vous voulez, qui montrent que sur le plan de la vérité interne, de l'articulation même de la science en tant que telle, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'en principe, un chercheur doit dire la vérité, et s'il ne le fait pas, il triche avec ses résultats, et en général, quand c'est le cas, comme maintenant, il y a une grosse compétition internationale, quand le résultat est faux ou triché, les collègues ne le reproduisent pas, et ça disparaît très vite. Donc, il faut, en quelque sorte, avoir une certaine objectivité scientifique. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la recherche scientifique sur le vivant. J'en arrive maintenant à ce qui concerne le respect, en quelque sorte, des sujets de recherche. Et je vais développer, comme je vous l'ai dit, le vivant humain, le vivant animal et le vivant tout court. Le vivant humain, d'abord, tout le monde est familier maintenant avec les abus du nazisme, qui a utilisé des sujets humains pour des choses absolument abominables, comme des tests de vaccination, des tas de choses que vous connaissez tous. Sans aucun respect en quelque sorte pour les sujets humains qui étaient considérés comme des entre guillemets sous-humains. Donc, comme on est une génération après la deuxième guerre, on a tous été familiarisés avec ces excès abominables. Mais ce qui est entre guillemets intéressant, c'est que des excès, il n'y a pas que les nazis qui en ont fait. Il y a un médecin qui s'appelle Marc Maillet qui a écrit il y a quelques années un livre où il décrit des abus médicaux faits dans les pays occidentaux, surtout aux États-Unis, hein, dans les hôpitaux, sans le dire aux patients. Donc des médecins qui voulaient vérifier quelque chose, et ils ont profité du fait qu'ils avaient des patients sous la main pour faire des essais, quelquefois assez abominables. Alors bien sûr, ils s'en prennent surtout à des sujets sans défense, c'est-à-dire des patients en cancer terminal qui vont mourir bientôt, qui ne pourront pas se plaindre, des handicapés enfants qui ne peuvent pas parler, etc. etc. Le livre de Maillet est assez épouvantable parce qu'il montre que dans un certain nombre de cas, il peut y avoir, je ne dis pas que les médecins sont comme ça, heureusement, hein, mais il peut y avoir des médecins dévoyés qui, théoriquement, se préoccupent de la santé du patient, mais qui s'intéressent plus à leur recherche et qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Donc, il peut y avoir des abus. Quand, quittons le scénario dramatique pour des choses plus simples, quand l'un d'entre nous sommes sur un lit d'hôpital pour une opération n'importe quoi, on vous dit « prenez tel médicament », on n'a pas toujours le courage de dire « est-ce que vous êtes bien sûr que ce médicament a été approuvé, etc. Bon. » il peut se glisser des abus discrets des recherches, par exemple sur les médicaments, puisqu'en théorie, le patient doit être soigné, il ne peut recevoir quelque chose que ce qui peut lui faire du bien, mais il n'est pas sûr que le médecin fasse toujours ça. Le médecin peut être intéressé par un résultat scientifique et profiter du fait qu'il a un patient pour faire quelque chose qui ne va pas totalement dans l'intérêt du patient. En principe, c'est interdit, bien entendu. Le principe, c'est la boussole, c'est les droits de l'homme. En principe, un patient n'a pas le droit de recevoir un traitement qui ne peut pas a priori bénéficier à sa santé. Même si ça peut bénéficier à la santé du voisin. Un médecin n'a pas le droit de faire une recherche sur un patient, de profiter de qu'un patient est à sa disposition pour faire une recherche si ce n'est pas dans l'intérêt du patient. Et même quand c'est dans l'intérêt, c'est un but de recherche, il faut demander son avis. Il y a toute une série de lois qui, si elles sont respectées, effectivement, protègent le patient. Je dis bien, si elles sont respectées, il y a toujours une marge possible d'abus. Autre question sur l'homme, c'est jusqu'où peut-on modifier l'homme ? Alors, il y a deux grands domaines, si vous voulez. Il y a un domaine qui est évident, c'est la modification dans le sens thérapeutique. Là, bien sûr, c'est la médecine. Cette modification-là, elle est effectivement tout à fait légitime. C'est le but de la médecine, c'est d'améliorer l'homme qui va mal. Seulement, les procédés scientifiques ont permis aujourd'hui toutes sortes d'améliorations qui ne sont pas strictement médicales. Et là, on se peut demander jusqu'où peut-on aller. Je donne deux exemples. Il y a la chirurgie esthétique, qui n'est pas médicale. Là, il s'agit de rendre plus beau, de rendre à notre goût plus beau, ou au goût du patient plus beau, quelqu'un qui ne se trouve pas bien, qui trouve qu'il n'a pas un joli nez. Et donc là, ce n'est pas de la thérapeutique. C'est utiliser des procédés médicaux pour transformer l'homme dans un sens qui plaît à certains. Ça ne choque plus, la chirurgie esthétique. Mais sur un plan éthique, ça pose des problèmes quand même. Un sujet a-t-il le droit de se modifier comme ça? Autre exemple, le dopage. Vous savez que il y a beaucoup de domaines où on se dope. Alors, c'est très classique dans le sport. C'est qu'il y a beaucoup de questions de dopage dans le sport. C'est interdit, bien sûr. Où le sujet va cette fois-ci non pas réparer un sujet malade, mais améliorer un sujet qui est déjà au maximum de ses performances pour qu'il soit encore mieux, pour qu'il performe encore davantage. Il y a beaucoup de dopage dans le sport, même souvent si on ne le dit pas. C'est un gros problème, mais qui n'est pas facilement soluble sur un plan éthique. Faut-il interdire le dopage? Il y a des gens qui disent qu'il faut le permettre. C'est très discutable. Dans le sport, dans le milieu de la compétition, c'est très délicat. En revanche, personne ne va poser de questions si un homme politique se dope pour aller faire un discours, voir si un étudiant se dope pour préparer un examen, ou si un acteur se dope avant de rentrer en scène. Hein. Donc ça, c'est très commun. Et, autant dans le sport, ça pose problème et il y a des essais de loi, autant dans le domaine public, ça ne choque personne. Dans l'art même, vous savez qu'il y a beaucoup de chefs-d'œuvre artistiques qui ont été faits sous drogue, hein, quelquefois même sous drogue illicite, et à la limite, c'est entre guillemets toléré. Donc vous voyez, ça pose des problèmes moraux que je ne vais pas résoudre devant vous, mais que je voulais quand même poser. Enfin, il y a un problème sur lequel tout le monde est à peu près d'accord maintenant, aussi bien pour la médecine réparative que pour l'amélioration de l'homme, dans les deux cas, c'est de ne pas toucher aux bases génétiques de l'être humain. Théoriquement, ça c'est possible. Hein. Supposez par exemple que par réparation génétique, vous pouvez réparer parmi des familles d'hémophiles, par exemple. Par réparation génétique, vous pouvez réparer ce gène-là. C'est assez tentant de le faire. Pour l'instant, l'insentiment général, c'est qu'il ne faut pas toucher à la génétique, parce que si on fait ça, on ne sait pas ce qu'on... C'est des choses qui vont être héréditaires après, on ne sait pas dans quoi on se lance. Mais il faut bien voir que dans les dizaines d'années, voire dans les siècles qui viennent, il y aura des propositions de réparation génétique, dont certaines seront même souhaitables, parce que ça peut être utile à terme, mais qu'on met là la main dans quelque chose de très dangereux, et donc il faut être très prudent. Quand on touche aux gènes, on ne sait pas très bien comment on va être amené à modifier l'homme. Vous voyez que ça pose ces problèmes de réparation, voire d'amélioration, mais même de réparation génétique, pose des problèmes éthiques assez considérables. Alors, je vais parler des animaux maintenant. D'abord, c'est un peu aussi pour montrer que certains animaux sont très proches de nous. Vous voyez, sur la diapositive qu'on a présentée ici, on a rassemblé un être humain qui est au centre et des chimpanzés à droite et à gauche. Alors, vous voyez que la ressemblance est extraordinaire. On les confondrait presque. Même si, effectivement, il y a des différences tout de même. Vous voyez que l'être humain, qui est au centre, je le rappelle, est un singe nu, il a très peu de poils. Et puis, il a des artefacts, comme des lunettes, des habits, qui suggèrent qu'il fait un certain travail intellectuel, probablement un petit peu différent de celui des chimpanzés. Alors, je vous dis ça pour vous détendre un petit peu, parce qu'on va maintenant passer à la question de l'animal. Hein. Mais vous voyez qu'il y a des animaux, quand même, qui sont très proches de nous. Alors, le vivant animal, ça pose des questions concernant la capacité de sentir la douleur. Ça pose des questions concernant le niveau de conscience. Ça pose des questions concernant le degré d'intelligence des animaux. Et je voudrais vous en dire quelques mots avant de passer aux grandes conceptions d'animal que je vais évoquer après. Alors, la douleur d'abord. Il y a, dans tout le monde, dans le règne animal, il y a une hiérarchie des effets. Il y a certains animaux qui n'éprouvent aucune chose comparable à la douleur. La douleur, au sens général, vous savez, s'appelle la nociception. La nociception, c'est la capacité pour un organisme de ressentir quelque chose qui est négatif, qui est néfaste à l'organisme. Eh bien, il y a des animaux qui n'ont pas de nociception du tout. Par exemple, les éponges. Par exemple, le ver solitaire. La majorité des animaux ont des phénomènes de nociception. Ils sont capables de sentir ce qui est négatif pour l'organisme, et ou bien de le fuir, ou de faire un mouvement qui va permettre de l'éviter. Au-delà, lorsque la nociception s'associe avec des phénomènes émotionnels, lorsqu'il y a des émotions qui lui sont liées, on parle de douleur. Et dans l'état actuel des connaissances, les vertébrés, disons, tous les vertébrés, et puis probablement également des mollusques très intelligents, qui sont les pieuvres ou les seiches, les mollusques céphalopodes, sont capables de douleur. Et puis le dernier niveau, c'est ce qu'on peut appeler la souffrance. Alors la souffrance, cette fois-ci, c'est la capacité d'avoir une conscience, on va revenir à la conscience tout à l'heure, d'avoir conscience des phénomènes de nociception. Je vais vous donner un exemple qui va permettre de montrer chez l'homme la différence entre ces différents effets. Lors de certaines opérations dentaires, la douleur peut être tellement forte qu'on est obligé d'attacher les mains du sujet pour qu'il n'envoie pas son poing dans la figure du chirurgien. Mais le sujet est anesthésié, donc il n'y a plus de cognition, il n'y a plus de conscience de la douleur, et donc c'est acceptable. Ces opérations sont faites chez l'homme, on considère que dans la mesure où il y a suppression de l'activité cognitive, en gros celle du cortex cérébral, lorsqu'il y a anesthésie du cortex cérébral, on considère que la douleur est acceptable. Donc, chez l'animal, il y a une hiérarchie, il serait intéressant de savoir à partir de quel seuil il y a conscience de la douleur, je serais tenté de dire au minimum chez les vertébrés et chez les pieuvres, chez les céphalopodes. La conscience, on arrive dans le niveau de conscience, ici encore, je viens un peu de l'aborder par le canal de la douleur, ici encore, il y a différents niveaux de conscience. Il y a des animaux qui n'ont pas de conscience du tout, les éponges par exemple. On peut considérer que la majorité des grands animaux qui nous intéressent ici, les chats, les chiens, les vertébrés, les pieuvres, ont ce qu'on appelle une conscience d'accès, c'est-à-dire la capacité de conscience de son environnement. Ce que je disais tout à l'heure, savoir qu'à tel endroit il y a quelque chose d'agréable, qu'à un autre endroit il y a quelque chose de négatif. Donc la conscience de l'environnement, ce qu'on appelle la conscience d'accès, existe chez la plupart des animaux que nous fréquentons, les grands animaux disons, hein, au moins les vertébrés que nous connaissons bien. Et puis alors, il y a un troisième niveau de conscience, qui est très particulier, qu'on appelle la conscience autoréflexive. C'est-à-dire la conscience d'être conscient. Je me sens conscient. Très longtemps, on a dit, ce niveau-là n'existe que chez l'homme. Mais c'est faux. Il y a un certain nombre d'expériences chez des animaux très intelligents qui suggèrent qu'il y a au moins l'ébauche d'une conscience autoréflexive chez certains animaux. Ça se démontre par le test du miroir, que je vais vous décrire chez les chimpanzés. Vous avez un chimpanzé qui dort, vous peignez sur son front une tache à gauche, le chimpanzé se réveille, il se regarde dans un miroir, et il essaie d'effacer la tache, suggérant par là qu'il se reconnaît dans le miroir, qu'il ne pense pas que c'est un autre chimpanzé. Donc ce test du miroir, qui est un indice débauche d'une conscience autoréflexive a été démontrée chez beaucoup de chimpanzés, quelques dauphins, un éléphant et une pie, donc déjà des animaux très intelligents. Vous voyez qu'il y a des animaux qui ont cette ébauche. Ça rejoint la question de l'intelligence. Il est évident que les animaux les plus conscients de tout à l'heure sont aussi les plus intelligents. Et là, je ne peux pas faire un développement faute de temps, mais on peut décrire chez les animaux les plus intelligents, encore une fois, les vertébrés et les céphalopodes, et plus particulièrement chez les vertébrés, les mammifères et les oiseaux, des comportements intelligents très complexes, des phénomènes de mémoire compliqués. La mémoire émerge aussi par paliers, et les vertébrés ont une mémoire beaucoup plus complexe que les autres. Et puis, des phénomènes de culture. Longtemps, on a dit, la culture, c'est la capacité de transmettre un trait par imitation ou enseignement sans passer par la génétique. On a dit longtemps, seul l'homme est un être de culture, les animaux n'ont pas de culture. Il y a toute une série d'arguments maintenant qui montrent qu'on trouve des phénomènes culturels ou protoculturels chez beaucoup d'animaux. Utilisation d'outils, communication, proto-langage, proto-morale, j'évoquais ça tout à l'heure, notamment chez les chimpanzés, et même proto-esthétique. Les animaux, certains animaux préfèrent certaines couleurs, préfèrent certains motifs de chant, etc. On peut même arriver à faire peindre des tableaux des chimpanzés, mais ça c'est une autre histoire. Il y a eu en gros trois conceptions de l'animal dans l'histoire humaine. Et on est un peu influencé par ces trois conceptions. La première conception, c'est de faire de l'animal un équivalent de l'homme. C'est la conception la plus répandue dans les civilisations. Dire que, au fond, l'animal est un petit homme. Ça existait en Occident aussi. Par exemple, au Moyen-Âge, il y avait des procès d'animaux où un taureau qui avait tué un homme était emmené dans un tribunal, jugé avec des avocats, etc., et éventuellement condamné à mort. Et donc, il était traité en quelque sorte comme un humain. Au temps de Louis XII, il y a eu un procès célèbre. L'évêque d'Autun avait poursuivi en justice les rats parce qu'ils transmettaient la peste. Et donc, il avait demandé qu'on les excommunie. Il a perdu son procès. Et on sait ça grâce à l'avocat des rats, qui s'appelait Barthélemy Chassanet, qui a écrit un livre pour dire « J'ai sauvé mes petits clients qui ne méritaient pas d'être punis. » Donc, vous voyez, ça, c'est l'animal traité comme petit homme, qu'on retrouve encore beaucoup dans tout ce qui est littérature, art. Hein, le roman de Renard, les fables de La Fontaine, les animaux qui parlent, sont des animaux qui se comportent comme des humains. C'est très présent aussi dans toutes les religions polythéistes. C'est-à-dire les religions... en quelque sorte, qui considère en général que après la mort, l'âme peut s'intégrer dans un corps animal. En d'autres termes, l'animal que vous côtoyez peut être théoriquement le réceptacle de l'âme d'un cousin, d'un parent, etc. Ce qu'on appelle la métempsychose. Donc, dans toutes les religions, et qui sont nombreuses, hein, ça comprend bien sûr aujourd'hui les grandes religions de l'Asie, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Ça a compris toutes les grandes religions de l'Amérique précolombienne. Je vous rappelle aussi que la majorité des Grecs croyaient dans les métempsychoses. On oublie de dire que Platon, par exemple, le grand philosophe Platon, croyait dans les métempsychoses. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de grandes traditions pour lesquelles l'animal était en quelque sorte le réceptacle d'une âme humaine. Donc ça donnait à l'animal un statut très proche de l'homme aussi. Donc ça, c'est la conception la plus répandue. En Occident, la conception la plus répandue, c'est plutôt une autre conception, qui est celle de l'animal-objet. Alors ça nous paraît évidemment contradictoire. Au départ, on pense que l'animal humanisé et l'animal-objet, c'est deux positions complètement opposées. En fait, ça l'est de nos jours, mais ça n'a pas toujours été. Dans beaucoup de civilisations, où l'homme lui-même, l'esclave, mais même souvent l'enfant, même quelquefois la femme, était considéré comme un objet, c'était pas choquant d'avoir l'animal humanisé en même temps que l'animal-objet. De nos jours, c'est contradictoire. Et l'animal-objet, ça résulte beaucoup de la philosophie de Descartes et de ses successeurs, qui ont voulu voir dans les animaux des automates, un peu comparables aux automates de leur siècle. Et alors ça a des avantages et des inconvénients. Dire que le corps, comme le pensait Descartes, le corps est un objet, c'est la base de la biologie. Dire que le corps est un système matériel qu'on peut analyser, en ce sens c'est fructueux, ça permet de dire on peut analyser le corps, en faire un système soumis à la science biologique. Mais en même temps, ça a une conséquence négative chez l'animal. Descartes disait, le corps, animal comme humain, est un objet, c'est un automate, mais l'homme, lui, il échappe à ce statut parce qu'il a en plus une âme. Ce qu'on appelle le dualisme cartésien de l'âme et du corps. L'animal, n'ayant pas d'âme, selon Descartes, c'est un pur objet, et à la limite, il n'est pas différent d'une table ou d'une chaise. En fait, Descartes n'a pas beaucoup insisté là-dessus, c'est surtout son élève Malebranche qui a caricaturé cette position en tapant sur des chiens en disant, regardez, le chien qui aboie, c'est exactement comme une horloge qui sonne l'heure. Ça paraît assez abominable de nos jours, mais cette thèse a été défendue. Pardonnez-moi un jeu de mots, la thèse qui dit que les animaux sont des objets, plutôt que cartésienne, devrait à mon avis appeler mal branché. Et donc, cet animal objet est très répandu en Occident, encore de nos jours. Nous sommes très marqués par ça. Je vous donne un exemple, par exemple, lors des épidémies de fièvre rafteuse. La fièvre rafteuse, c'est une maladie qui ne touche pas l'homme, a priori. Strictement, ça touche que les animaux. Et on les tue, quand ils ont la fièvre, on les massacre, il y a des monceaux de cadavres, et on dit, ça coûte moins cher de les tuer que de les vacciner. Donc ça, c'est exactement l'animal-objet appliqué au monde d'aujourd'hui. La seule conception raisonnable, rationnelle de l'animal, c'est la troisième. C'est-à-dire, ni l'animal petit homme, ni l'animal objet, c'est l'animal être sensible, c'est-à-dire l'animal doué de sensibilité, qui présente une certaine parenté avec l'homme, sans être exactement son identique, puisque l'homme a des capacités intellectuelles particulières qui en font un être, qui a un mode de vie particulier. Donc, la conception actuelle raisonnable, celle dont on se rapproche, même si notre loi est encore très influencée par l'animal objet cartésien, la loi dont on se rapproche maintenant, c'est de dire, il y a les hommes, il y a des objets comme la table et la chaise, et puis il y a les animaux qui ont un statut particulier, c'est des êtres sensibles qui méritent donc un certain type de respect et des droits particuliers. Je suis ceux qui pensent qu'il faut donner certains types de droits aux animaux, qui ne sont pas les droits de l'homme bien entendu, mais qui ne sont pas non plus les droits de la chaise ou du fauteuil. Alors ça a des conséquences bien sûr, au point de vue scientifique, si on dit ça, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment avec les animaux. Ça veut dire que les animaux, il faut, lorsqu'on expérimente dessus, alors maintenant il commence à y avoir des lois, qui dit que, par exemple, pour les animaux, toute expérience douloureuse doit être faite sous anesthésie, sauf des cas particuliers que je ne veux pas développer ici. Donc il y a une protection des animaux, au moins des vertébrés, et récemment des pieuvres, des céphalopodes. Il n'y a aucune protection des autres animaux, comme les abeilles, les vers de terre, ce que vous voudrez. Mais les vertébrés et les pieuvres commencent à être protégés, et on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux maintenant. J'en arrive au dernier point. Le vivant tout court, c'est-à-dire l'environnement. Alors là, vous avez trouvé des choses auxquelles vous êtes familier. Bien sûr, il y a dans l'environnement des pollutions. On a choisi, je caricature, au 19e siècle, on a choisi d'utiliser notre système de rivière comme système d'égout pour l'évacuation des usines. C'était une grosse erreur. On commence à payer, on en paye les pots cassés aujourd'hui, et on revient dessus. Et l'accélération moderne, évidemment, a beaucoup accru ce dégât qu'on cause à l'environnement. Je ne vais pas reprendre ici toutes les pollutions que vous connaissez un peu partout, chimiques, radioactives, c'est des choses que tout le monde connaît, je suppose, ici. Mais il est clair que l'accélération moderne, le fait que l'homme occupe de plus en plus de place sur la planète et a une industrie de plus en plus performante, fait que l'environnement, donc le vivant environnemental, animaux, espèces, mais aussi végétaux, court des risques assez grands. Assez risques, disons, liés à la pollution, liés à l'activité humaine, qui sont, j'insiste pas dessus, mais ils sont partout, vous le savez, et maintenant on en est conscient, et il se développe des mouvements écologiques qui essaient de lutter contre ça. Vous savez que tous les grands partis, maintenant, ont pris des décisions ou ont des souhaits écologiques. Hein. Ce n'était pas le cas il y a 40 ans. Mais maintenant, tout le monde s'est un peu mis. Au-delà de ça, il y a aussi des risques qui sont créés par la recherche elle-même. Notamment les fameux êtres vivants transuniques que vous connaissez sans doute, où on va modifier des gènes pour des raisons favorables au départ, pour rendre le végétal plus résistant aux insecticides ou plus résistant aux herbicides, etc. Qui donne plus de production, qui rapporte plus, si vous voulez. Donc tout ça part de bons sentiments au départ. La question à savoir, c'est si en modifiant ces végétaux, animaux aussi, mais parlons des végétaux ici, de façon transgénique, est-ce qu'on prend des risques pour l'homme? Alors, la question est très débattue. Dans l'état actuel des connaissances, il semble que les risques sanitaires pour l'homme lui-même soient relativement minces. Dans l'état actuel des choses, on n'a pas connaissance. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Il faut être prudent. Mais dans l'état actuel des choses, on n'a pas d'évidence que les vivants transgéniques puissent présenter un risque lorsque l'homme les consomme. Il y a des pays, vous êtes beaucoup plus libéraux que la France, où il y a pas mal de transgénoses. Et apparemment, il n'y a pas eu pour l'instant de risque majeur. Les gens qui consomment ou du maïs transgénique ou des animaux qui ont été traités au maïs transgénique, il n'y a pas de graves soucis pour l'instant. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il semble que pour l'instant le risque directement sur l'homme soit mince. Mais il y a un risque très fort pour l'environnement. Et là, on joue un peu avec le feu. C'est-à-dire que ces pollens transgéniques se transmettent très facilement et vont aller transformer des plantes, etc., avec des conséquences sur la biodiversité qu'on ne peut pas mesurer, qu'on est incapable de mesurer aujourd'hui. Donc, je vais tenter de dire que, pour tout cela, dans un souci de respect de la biodiversité, puisque, pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, il faut respecter la biodiversité, je pense qu'il faut être assez prudent avec ces éléments transgéniques. Je ne dis pas qu'il faut ne pas les étudier du tout. Moi, je pense que la science ne gagne pas à fermer les yeux. Il faut les étudier, mais avant de les mettre dans la nature, il faut être très prudent. Et je crois que les positions qui ont été adoptées en France actuellement sont assez raisonnables, me semble-t-il. Il faut respecter la biodiversité, de façon plus générale. Respecter les espèces. Alors pourquoi? On me dit pourquoi est-ce qu'il faut respecter les espèces? De tout temps, il y a eu des espèces qui ont disparu, d'autres qui sont disparues. En étant géologique, ça fait partie du mécanisme darwinien général. Le problème, c'est que l'homme a acquis dans la surface de la planète une position extrêmement prépondérante. Et actuellement, il fait par son industrie, par son activité, disparaître beaucoup plus d'espèces qui n'en disparaîtraient spontanément. Donc il y a ce problème-là, c'est que nous occupons, alors encore une fois, du fait de cette particularité humaine qu'on est un animal quand même assez particulier, on tend à faire disparaître des quantités d'espèces, il en disparaît, je crois, de l'ordre du millier par an. Alors on ne s'aperçoit pas beaucoup, parce que la biodiversité, elle est énorme. Hein, donc comme elle est très variée, que ça se passe par exemple dans la forêt amazonienne, etc., on ne s'en aperçoit pas beaucoup. On s'en aperçoit quand c'est des gros animaux. Là, on dit, ah, c'est bien dommage que le dron de l'île Maurice, c'est un gros dindon qui était gros comme un mouton, c'est bien dommage qu'on puisse plus l'utiliser au point de vue production alimentaire. Donc quand c'est des animaux comme ça, ça nous gêne parce que ça nous manque. L'ours des Pyrénées, pour des raisons, psychologiques aussi. Le tigre aussi disparaît. Les gros animaux, mais les petits animaux, on s'en aperçoit pas beaucoup. Néanmoins, il faut défendre la biodiversité, même pour des petits animaux, même pour des animaux qui ne sont pas directement utiles à l'homme. Parce que, vous le savez, la biosphère est un tout, et que les répercussions de la perte d'une espèce peuvent être considérables indirectement. Et puis, il y a une deuxième façon beaucoup plus pratique de défendre ça, c'est de dire que toutes ces espèces compliquées, animales, végétales, ont été fabriquées par l'évolution lors de millions d'années d'évolution, et elles sont très compliquées, et on ne sait pas les fabriquer. C'est un aveu de bêtise de détruire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Pour des raisons pratiques, toutes ces espèces qu'on ne sait pas fabriquer et qu'on laisse disparaître pourraient potentiellement nous donner des médicaments, des traitements. Vous savez que beaucoup de nos traitements pharmacologiques viennent des plantes, viennent de certains animaux. Les antibiotiques ont été trouvés chez les moisissures, vous le savez. Chez les sangsues en particulier, il y a des mécanismes d'anticoagulation, des anticoagulants qui permettent de la sangsue qui pompe le sang, que le canal ne se bouge pas. On est en train d'isoler actuellement des anticoagulants qui seront utiles pour les gens qui ont des crises cardiaques à partir des sangsues, etc. En d'autres termes, toutes ces espèces, dans leur immense variété, sont des mines de connaissances et c'est complètement idiot de les laisser disparaître. Il ne faut pas laisser les espèces disparaître, il faut entretenir la biodiversité. Et donc il faut, comme j'ai dit qu'il fallait donner des droits aux animaux, il faut donner des droits pour l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement ne soit pas... C'est déjà le cas, hein. Déjà, il y a des plantes protégées, il y a des animaux protégés, on va dans ce sens-là, mais je pense qu'il faut l'accentuer encore un petit peu davantage. Donc, ici encore, on ne peut pas faire sur l'environnement n'importe quoi. Il faut, en particulier, veiller à ce qu'on ne fasse pas disparaître d'espèces et veiller à maintenir la biodiversité. Pour terminer, je voudrais vous résumer quelques-uns des impératifs moraux qu'on a vus ici. Donc, ce qui limite la science, c'est la morale, hein, c'est l'intérêt de l'espèce humaine dans son vécu moral, dans son vécu social. Ça suppose le respect de l'homme, bien sûr, ça paraît évident aujourd'hui, vous êtes tous convaincus des droits de l'homme, respecter l'homme vis-à-vis des sources de douleur possibles, pas le faire souffrir, respecter son intégrité corporelle, psychique aussi, ne pas le rendre fou, lui donner en gros une vie décente. Bon, tout ça, ça suppose qu'on ne fasse pas n'importe quoi sur le vivant humain, et notamment sur les patients dans les hôpitaux. Respect d'animal, respecter aussi les capacités de douleur de certains animaux, d'intelligence de certains autres, de relation avec l'homme, je n'ai pas insisté là-dessus parce que ce n'était pas tout à fait le sujet, mais il y a aussi le fait que certains animaux vivent avec nous, les animaux de compagnie, les chats, les chiens, mais aussi les animaux de rente. Donc ça impose probablement aussi, là à l'homme, des contraintes, donc des droits particuliers, parce que ce sont des animaux qui vivent avec nous. C'est déjà le cas, hein. Les chats et les chiens ont un certain nombre de lois qui les protègent. Hein. Bien sûr, il faut aussi respecter l'environnement. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'environnement, sinon on risque de perdre la biodiversité et avec des conséquences assez considérables à long terme chez nous. Tout ça étant lié, je suis ceux qui pensent qu'il y a une unité de la morale notre morale aujourd'hui est quand même très compartimentée entre la morale pour l'homme et puis, à la rigueur, quand on a le temps, la morale pour les animaux et l'environnement. Mais c'est quelque chose d'un peu secondaire. Je suis ceux qui pensent qu'il faudrait unir tout ça et avoir une morale plus unitaire qui tiendrait compte, dans leurs spécificités respectives, de l'homme, des animaux, de l'environnement. Ça veut dire aussi que lorsqu'il y a un conflit grave entre la morale et la science, on donnera le primat à la morale sur la science. Ça, c'est un point important. Et ça rejoint la question qui a été posée au début. C'est qu'on ne peut pas en science faire n'importe quoi. Lorsque la science heurte trop violemment les choix moraux, il faudra donner le primat, dire que c'est la morale qui prime et pas la science. Je terminerai sur cette phrase que vous connaissez tous, qui est une phrase qui a été dite par plusieurs personnes, mais à l'origine, je crois, par Rabelais, qui est que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je vous remercie pour votre attention.